Je travaille habituellement sur le droit de la famille, sur le droit coutumier et sur ce décalage que l'on observe entre la norme, alors la norme coutumière, c'est-à-dire la coutume, le texte de la coutume, la façon dont cette coutume est commentée par les juristes. Et en Normandie, les juristes sont absolument émerveillés par leur coutume et la suivent à la lettre. Et puis la façon dont cette coutume est sanctionnée par les tribunaux, tout particulièrement par le Parlement de Normandie. Donc ça, c'est ce que l'on peut qualifier de norme. Et puis à côté, il y a tous les actes de la pratique qui montrent parfois un vrai décalage, et entre autres, j'espère l'avoir montré en droit de la famille. Alors, il est vrai que j'aime beaucoup la coutume, notre coutume de Normandie, et quand j'ai choisi de traiter un thème que vous connaissez bien et que je connais beaucoup moins bien, je me suis dit que la solution était peut-être de se cacher derrière cette coutume. Et c'est donc à travers les textes des coutumiers, de la coutume rédigée, les écrits des commentateurs, et puis encore la façon dont les juristes sollicitent cette coutume de Normandie à la fin de l'Ancien Régime, que je vais vous présenter la thématique choisie. Alors j'ai proposé de présenter une étude sur les communaux et les droits d'usage autour desquels s'affrontent riches et pauvres, seigneurs et paysans. Je pense avoir perçu à travers tous ces textes coutumiers une vraie faveur pour les plus démunis. Alors le sujet des communaux est évidemment trop vaste pour une seule séance, et j'ai fait le choix d'écarter, malgré mon passage à Nancy, un aspect pourtant essentiel de l'étude, les droits des habitants sur les bois et les forêts. Je limiterai donc cette étude aux problèmes juridiques liés à l'exercice par la communauté des habitants du droit de dépaissance, autrement dit du droit de pâturage. Cela suppose deux types de droits, les droits de vive pâture qui appartiennent à une communauté d'habitants sur les terres non appropriées de la commune, ce que l'on appelle en fait au sens strict les communaux ou encore les communes, pour reprendre la terminologie normande entre autres. Mais aussi, et c'est l'autre type de droit, les droits d'usage de vaine pâture sur certaines terres appropriées une fois la récolte terminée. Il faut noter que les Normands confondent souvent les deux droits sous une même terminologie de commune. La coutume semble retenir plutôt un critère chronologique que le seul critère d'appropriation. À certaines périodes de l'année, les terres sont en défend et ne peuvent faire l'objet du droit de pâturage. En d'autres temps, elles sont en bannon, ce sont les termes de la coutume, et doivent supporter ce droit exercé par la communauté des habitants. Ainsi, le grand coutumier emploie le qualificatif commune, même pour les terres appropriées sur lesquelles s'exerce le droit d'usage. Alors, je cite un extrait du chapitre 8. « Terres sont en aucun temps en défend et en autres sont communes. Vides terres sont en défend depuis la mi-mars jusqu'à la Sainte-Croix de septembre. En autres temps, elles sont communes si elles ne sont closes ou défendues d'ancienneté. » Même chose à l'article 82 de la coutume rédigée. « Les prés, terres vides et non cultivées sont en défend depuis la mi-mars jusqu'à la Sainte-Croix de septembre, et en d'autres temps, elles sont communes si elles ne sont closes ou défendues d'ancienneté. » Terminologie unique encore à la fin du XVIIIe siècle, dans la définition qu'en donnent les membres de la Commission de l'agriculture, du commerce et du bien public de l'Assemblée provinciale de la Généralité de Rouen. Je le cite, « Par le mot « commune », on entend les terrains sur lesquels les habitants ont indivisément droit d'usage ou de propriété, comme formant communauté laïque. Ces droits, on le sait, sont essentiels à la subsistance des plus pauvres, qui pourront faire paître leurs bêtes à moindre frais. Qu'il s'agisse de la mise en œuvre du droit de pâture sur des terres appropriées ou non, ou de l'éventualité d'un partage des communaux, cette fois-ci au sens strict, on assiste à deux types d'affrontements riches-pauvres. Le premier est celui qui oppose le seigneur et les communautés d'habitants. Le second voit l'opposition au sein même de ces communautés d'habitants entre les paysans riches et les paysans pauvres. Or, nous verrons que ces derniers, les paysans pauvres, semblent toujours avoir eu la faveur des juristes normands et que ceci, que ces juristes, pardon, aient à envisager l'exercice du droit de pâturage, les terres, les paysans, les bestiaux concernés par ce droit, ce que nous verrons dans une première partie, ou qu'ils aient eu à se préoccuper du sort des paysans lorsque les communaux, au sens strict du terme cette fois-ci, suscitèrent des oppositions de la part des seigneurs, tout d'abord, de la part des physiocrates, ensuite, oppositions qui pousseront à envisager le partage, ce que nous verrons dans une deuxième partie. L'exercice du droit de pâture. La première question que se posent les juristes est de connaître l'origine des communaux, droit immémorial ou droit concédé par les seigneurs féodaux. De nombreux juristes normands optent pour un droit immémorial, parfois contemporain du premier duc de Normandie, Rollon, qui, en 911, selon Dudon de Saint-Quentin, reçoit une neustrie, je le cite, « abandonnée de la charrue et presque totalement désertée par le bétail, privée de toute présence humaine ». Le duc, pour faire revenir la population et pour rassurer cette population, tout particulièrement la population paysanne, donne au duché des lois assurant la paix publique. Et on connaît l'importance jusqu'au XIXe siècle du mythe de Rollon législateur. Il semble que les ducs aient pris sous leur protection les paysans, un peu comme ils pouvaient protéger la veuve et l'orphelin. Et derrière cette protection, qui est conçue largement contre tous, et particulièrement contre les voleurs, il y a vraisemblablement une protection plus politique contre les seigneurs. Le chapitre 16 du très ancien coutumier consacre la sauvegarde ducale. Je cite un extrait. « La charrue doit être en la paix le duc et en sa défense. Il garde ce qu'il amène. » Cette paix de la charrue, qui est l'un des aspects de la paix du duc, renvoie à l'épisode célèbre du vilain de Longpan, rapporté entre autres par Dudon de Saint-Quentin. Sûr de son autorité, Rollon avait interdit aux paysans de rentrer le matériel agricole le soir. Une femme veut tester la pertinence de ces lois, tester l'autorité du duc, cache un soc de la charrue de son mari, le forfait est découvert, les deux époux sont pendus. Le mari devait surveiller sa femme, donc il est pendu comme la femme. Si dans cet épisode, les lois du duc viennent protéger le paysan contre tout voleur, le très ancien coutumier désigne d'éventuels autres agresseurs, comtes ou barons ou autres puissants hommes, autrement dit des seigneurs. Et le chapitre 15 du très ancien coutumier évoque, je le cite, Lis comte et lis baron et lis chevalier qui traitoient malement les marchands et les autres. La mise en place de cette protection ducale pourrait être paradoxalement la conséquence de la révolte paysanne de 996, évoquée par certains chroniqueurs. L'interprétation faite par Mathieu Arnoux de cet épisode me paraît convaincante. Il montre que cette révolte n'est pas menée contre les institutions ducales, mais qu'elle est menée contre la classe seigneuriale. Et si la répression contre les paysans a été violente, il n'est pas certain qu'elle ait vu la victoire complète des seigneurs. Au contraire, il est possible que la crise se soit achevée sur un compromis par lequel le duc, confirmant la pleine maîtrise de son pouvoir politique, aurait mis au pas les barons normands et assuré la protection de la classe paysanne. Le juriste normand Ouard affirme encore au XVIIIe siècle que Rollon lui-même, je le cite, « donna à plusieurs communautés d'habitants des terrains pour le pâturage de leurs bestiaux ». Les communes, je cite toujours Ouard, « les communes ne viennent donc pas des seigneurs, mais du roi directement. Raoul fit ce que Guillaume le Conquérant a fait depuis en Angleterre ». Même origine des pâturages présentée par Banage au XVIIe siècle. Je le cite, « Ces terres communes, qui appartiennent aux habitants en commun, d'un bourg ou d'une paroisse, ont eu apparemment cette origine que dans la division des terres qui fut faite par les conquérants, on laissa à chaque bourg ou communauté un certain fonds pour la commodité publique et pour la nourriture du bétail. » Et Ouard de préciser que, je le cite, « ces communes ont de tout temps été conservées religieusement au profit des habitants. » Et il est vrai que la coutume leur semble favorable. Quoi qu'il en soit de l'origine première des communaux, les travaux de Jules Sion montrent qu'à partir du milieu du XIIIe siècle, Les droits d'usage et communaux apparaissent régulièrement comme appartenant à une communauté villageoise plutôt que comme appartenant à des habitants relevant d'un seigneur. Ainsi, appartenant à une communauté d'habitants, le paysan peut-il jouir des communaux et bénéficie-t-il de droits d'usage précisément réglementés par la coutume sur la propriété d'autrui? Qui bénéficie de ces communaux ou droits d'usage et dans quelle proportion? Les commentateurs de la coutume vont interpréter les droits de pâture généralement strictement vis-à-vis des seigneurs et des gros laboureurs et par conséquent plutôt en faveur des petits paysans. Banage affirme que chaque habitant n'a pas la faculté de faire pâturer dans les communes de la paroisse ou dans les terres vides et non cultivées, et encore une fois on voit les deux droits qui se trouvent associés. Je le cite, « autant de bêtes qu'il lui plaît, mais le nombre de bêtes qu'il envoie paître doit être proportionné à la quantité des terres qu'il possède dans la même paroisse. » Et Banage cite un arrêt du Parlement de 1670 qui fixe le nombre de bêtes à un mouton par arpent de terre possédé. Si le nombre de bêtes est proportionnel à la propriété, c'est que ces droits de pâture, selon Banage, n'ont été établis, je le cite toujours, que pour la commodité des maisons et des fermes de toute la paroisse, de sorte que chaque propriétaire en doit avoir sa part, ce qui ne serait pas s'il était permis aux plus riches d'y en envoyer autant qu'il leur plairait. Et l'on ne doit mettre aucune différence entre le noble et le roturier, car ce droit de pâturage étant réel et non personnel, il doit être réglé sur la proportion des terres que chacun possède en sa paroisse. Le seigneur même de la paroisse doit être soumis à cette loi. Et l'on peut voir ici la faveur aux paysans. Ward, quant à lui, fait allusion à la domination des riches laboureurs sur les paysans plus modestes à propos des propos qu'ils envoient paître. Il y a des cantons, nous dit-il, et il vise tout particulièrement le pays de Caux, où, je le cite, les principaux laboureurs sont dans l'opinion que pour élever des moutons, il faut être en état d'en former un troupeau. Alors, Ward ne nous dit pas combien de têtes de bétail il faut pour former un troupeau, ni Ward ni les autres commentateurs d'ailleurs, mais il faut occuper et faire valoir un grand nombre de terres, nous dit-il. De là, je cite toujours Ward, ces laboureurs, ces gros laboureurs, profitent seuls des terres de pillage, qui sont les terres de ceux qui n'ont pas de troupeau, après la récolte. Ward nous explique que ces gros laboureurs en pays de Caux monopolisent les terres de pillage et se les répartissent entre eux tous les ans. C'est un abus, dit-il, c'est un abus qu'il est intéressant de réprimer. Chaque fermier, quelque peu considérable que soit son fermage, a droit d'élever des moutons et de prendre dans les champs de pillage une part proportionnée aux terres de sa ferme. Selon Ward, plusieurs petits fermiers seraient libres de s'associer, de former entre eux un troupeau commun. Et, nous dit-il, le bénéfice de l'article 82 de la coutume appartient à chacun des cultivateurs des paroisses, quelque médiocre que soit leur occupation. Ainsi, en temps de banon, c'est-à-dire de la Sainte-Croix de septembre à la mi-mars, chacun peut envoyer ses bêtes pâturer librement. Cette liberté cessant en période de défend. L'article 68 de la coutume accorde au seigneur le droit de saisir les bêtes qui divagueraient dans toute l'étendue de son fief en période de défend. Alors, cet article s'inscrit dans un contexte plus large. Les bêtes peuvent être saisies non seulement lorsqu'elles font des dommages dans les terres en période de défend, mais elles peuvent aussi être saisies pour dette. Ces bêtes saisies sont qualifiées de nants, N-A-M-P-S, par la coutume. Et Béraud reprend la distinction que fait Thérien au XVIe siècle entre vifs nants, qui sont les bêtes, et morts nants, qui sont les autres meubles, le seigneur pouvant saisir les deux pour se faire payer de ses droits féodaux, ses droits seigneuriaux. Toutefois, certaines bêtes échappent à la saisie. Au nombre des biens non exécutables, nous dit Godefroy, les bêtes et ustensiles de harnois servant au labourage ne peuvent être saisis par les seigneurs. En fait, seule la saisie des bêtes en dommage nous intéressera ici, c'est-à-dire des bêtes divagant et commettant des dommages sur les terres. Ce que la coutume accorde au Seigneur, les commentateurs l'accordent à tous. Il est permis à un chacun, sans ministère de sergent, prendre et mener en parc les bêtes trouvées en dommage, nous dit Béroux. L'article 65 de la coutume prescrit de mettre en garde les bêtes saisies en lieu convenable, je cite l'article, en lieu convenable qu'elles n'empirent et où celui à qui elles appartiennent puisse aller une fois le jour pour leur donner à manger. Sûrement et commodément, dit Béroux. Ce lieu, c'est le parc, qui doit être de facile accès, nous dit Godefroy. Béroux rappelle également l'opinion selon laquelle les bêtes trouvées en la garde de quelqu'un qui indiquerait le maître de ces bêtes ne pourraient pas être prises. Opinion à laquelle il s'oppose. Il y a autant ou plus de raisons de les faire saisir, les trouvant avec garde, qui présuppose une malice délibérée et inexcusable. Opinion partagée par Godefroy, car tant s'en faut que la garde les décharge des dommages, qu'ils sont au contraire plus coupables, comme fait de propos délibérés et de malice préméditée. Selon Béroux, toujours, la plupart des coutumes prévoient une amende de 60 sols lorsqu'il y a des dommages. Certaines prévoient que la moitié de l'amende revient à la justice, l'autre moitié au propriétaire de la terre. En Normandie, l'amende est toujours arbitraire, Banage nous dit « laissée à la prudence des juges » et l'intérêt se fait au prorata du dommage. Par ailleurs, l'abandon noxal, c'est-à-dire l'abandon de la bête qui a occasionné le dommage, peut ne pas suffire, d'autant bien souvent le dommage est plus grand que la valeur de la bête, en quoi le voisin serait intéressé, nous dit Banage. Alors, quels dégâts estimés ? Est-ce que ce sont les dégâts faits au jour du dommage, la destruction du blé en herbe par exemple, ou doit-on estimer la valeur qu'aurait eu ce blé si on lui avait laissé le temps d'arriver à maturité ? Les auteurs sont partagés, mais le plus grand nombre estime les dégâts au jour du dommage. Godefroy, lui, se rallie à l'opinion contraire du Breton d'Argentré, je le cite, « car pourquoi celui qui a semé doit-il perdre son espérance par le fait et faute d'autrui ?» Il y a là déjà l'idée de l'indemnisation du manque à gagner. Par ailleurs, certaines bêtes sont considérées comme malfaisantes et par conséquent toujours en défend. Il s'agit des porcs et des chèvres, donc nommément cités par le grand coutumier au chapitre 12 ou par la coutume à l'article 84, mais aussi, pour nos juristes normands, ce que la coutume d'Orléans appelle la volture, c'est-à-dire les oies et les dindons, principalement. Les moutons, dont la laine et la dent sont vénéneuses, dit Banage, feront aussi l'objet de restrictions. Un arrêt de la Grande Chambre de novembre, enfin du Parlement de Rouen, pardon, de novembre 1655, a jugé, je cite l'arrêt, que l'on ne devait point mener les moutons dans les prairies, mais bien dans les marais et communes qui sont au bord de la mer. Le Gourmet rendra grâce au Parlement d'avoir encouragé l'élevage de moutons présalés. La question qui s'est posée est de savoir si un propriétaire qui trouve ses bêtes malfaisantes en dommage, c'est-à-dire faisant des dégâts sur sa terre, a la possibilité de les tuer. Terrien ne fait pas allusion à cette justice privée. Au contraire, celui qui trouve une bête faisant dommage sur sa terre doit la mener en justice sous 24 heures pour être payé de son intérêt. Il faut visiter et estimer le dommage et doit l'action en dommage de bête être intentée dedans l'an et jour. Banage, quant à lui, rapporte une affaire pour laquelle le Parlement a admis que des porcs trouvés en dommage soient tués. Le valet d'un certain Beuzelin tue deux porcs qu'il surprend dans les blés de son maître et l'avocat Beuzelin distingue dans sa plaidoirie les bêtes ordinaires et les bêtes malfaisantes. Pour les premières, il est possible d'obtenir réparation des dégâts occasionnés par les bêtes, au besoin en accordant au propriétaire de la terre l'action noxale, mais sans jamais pouvoir tuer ces bêtes. Mais pour les porcs et les chèvres, ces bêtes malfaisantes, je cite la plaidoirie, « comme le dommage qu'ils commettent est plus grand, il faut aussi que le propriétaire ait plus de garantie de s'en garantir. Il doit donc être permis de les tuer. » Banage rappelle la coutume du Bourbonnais qui permet effectivement de tuer les pourceaux et celle d'Orléans qui permet de tuer les oies et autres voltures. Cette permission, nous dit Banage, est fondée sur la nature de ces volatiles, lesquels étant des animaux fuyards ne peuvent être arrêtés aisément. C'est la même raison qui pourrait conduire à tuer les porcs, à cause que ces bêtes sont malaisées à arrêter, nous dit Delalande, qui est commentateur de la coutume d'Orléans. Mais, ajoute Delalande, celui qui les tuerait ou blesserait serait condamnable aux dommages et intérêts, les lois civiles ne permettant pas qu'on use de violence. Benage recommande d'user avec modération et de n'en venir à cet excès, je le cite, qu'après avoir averti le propriétaire de les faire garder, que s'il ne le fait pas, sa trop grande négligence autorise celui qui en souffre à se faire justice. Alors, celui qui tue les bêtes ne doit pourtant pas en profiter, c'est-à-dire qu'il doit les laisser sur place. Et un arrêtiste qui fait état du même arrêt Beuzelin nous précise qu'en fait le Parlement a compensé les intérêts des deux parties. En définitive, celui qui voit sa terre endommagée a le choix entre saisir la justice pour obtenir réparation du dommage ou se faire justice lui-même. Il y a évidemment incitation à saisir la justice parce que quel intérêt à part soulager ses nerfs mis à rude épreuve, quel intérêt à tuer une bête que l'on ne peut pas récupérer et qui ne permet pas non plus d'obtenir réparation du dommage. Les communaux seront de la même façon protégés des bêtes malfaisantes. Ils seront moins bien protégés de deux types d'adversaires, les seigneurs dès le XVIe siècle et les physiocrates au XVIIIe siècle, adversaires qui pousseront au partage des communaux. Là encore, nous verrons les juristes, particulièrement attentifs aux plus faibles. Dès le XVIe siècle, les seigneurs souhaitent défricher. Ils souhaitent également reprendre les communaux pour les concéder sous forme de fief ou sous forme de bail à ferme. Et les seigneurs vont faire valoir leur droit de propriété et l'adage « nulle terre sans seigneur ». Deux procédures vont être admises par la jurisprudence pour restreindre le droit des communautés d'habitants. Le triage, tout d'abord. L'opération consiste à attribuer un tiers de la propriété des communaux au seigneur et les deux autres tiers à la communauté d'habitants. Le fondement juridique de l'opération, c'est la reconnaissance d'une propriété collective qui appartenait à tous les habitants, y compris au seigneur, qui est le premier des habitants. Il existait donc entre le seigneur et les habitants une indivision dont le seigneur pouvait toujours demander à sortir. Deuxième type de procédure, le cantonnement. Dans cette hypothèse, les paysans ont un droit d'usage sur l'ensemble des communaux. Le seigneur, dans le cadre du cantonnement, obtient la propriété exclusive des deux tiers du bien et le troisième tiers est attribué en propriété utile, aux habitants. Le fondement juridique, cette fois-ci, c'est qu'à l'origine, le seigneur est propriétaire du tout, les habitants n'ont qu'un droit d'usage, une sorte de servitude. Et le cantonnement permet de transformer le droit des habitants d'un droit d'usage sur le tout, on passe à un droit de propriété sur une partie. Vis-à-vis de ces exigences seigneuriales, la législation royale va passer par plusieurs étapes. Dans un premier temps, le roi se montre favorable aux communautés d'habitants, c'est le cas de l'ordonnance de Blois de 1579, c'est le cas dans le code Michaud de 1629, ce sera plus encore le cas après la Fronde. Et l'édit de 1667 permet aux communautés d'habitants de faire annuler toutes les aliénations de communaux qu'elles avaient été amenées à faire depuis 1620, généralement pour payer la taille au roi. Le roi, par cet édit de 1667, s'interdit de procéder à l'avenir au triage. Il annule ce fait depuis 1630 et il fait vérifier les triages les plus anciens. Et en fait, l'idée sous-jacente de cet édit, c'est l'idée de l'inaliénabilité des communes. Léger recul, avec l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, Colbert souhaite protéger la forêt et il va restreindre le droit d'usage dans son ensemble. Les triages ne sont plus interdits, mais ils sont quand même soumis à des conditions assez strictes. Ils ne pourront avoir lieu que si les habitants ont toujours bénéficié des communaux à titre gratuit, donc sans jamais payer de redevances, et la preuve incombe au seigneur. Et puis, il faut également que les deux tiers restants aux habitants suffisent à leurs besoins. Donc, des conditions strictes et les triages se raréfient. Et puis, le roi cède peu à peu aux pressions des seigneurs, aux pressions des parlementaires. Et les acquisitions antérieures de communaux seront validées en raison du paiement d'une taxe au trésor royal. En fait, le roi va laisser la pratique des cantonnements contourner la règle des triages. Les juristes normands conçoivent que les communaux aient pu parfois être concédés par un seigneur, mais nous l'avons vu, ils penchent plutôt pour une concession ducale primitive. Oire admet toutefois une distinction. Ou bien les seigneurs ont des aveux, c'est-à-dire des titres, par lesquels les vassaux ou les paysans avouent tenir d'eux les terres sur lesquelles ils exercent le droit de pâture. Ou bien les vassaux jouissent de ces terres en vertu d'une possession immémoriale sans titre. S'il y a aveu, nous dit Oire, la propriété est évidemment restée inhérente au fief. Et dans ce cas, le seigneur jouit de ses biens en fonction de la concession qu'il a faite. Mais dans le second cas, je cite toujours Oire, la commune est présumée appartenir au roi et avoir précédé l'inféodation des seigneurs. D'où il résulte que le seigneur n'a reçu l'investiture de son fief qu'à la condition de conserver aux vassaux ou aux paysans l'usage de la commune. Et le seigneur ne peut prendre part à cette commune que concurremment avec les paysans. L'idée est ici, évidemment, que le roi de France a succédé au duc de Normandie et qu'à l'origine, c'est Roland qui a distribué les terres. Aussi, nous dit Oire, est-il de maxime incontestable que les seigneurs doivent avoir un titre positif pour priver les habitants d'une paroisse, d'une commune dont ils sont en possession immémoriale. Et qu'au contraire, cette possession sans titre suffit à ses habitants pour se maintenir en la jouissance du droit de commune. Autrement dit, en Normandie, nul seigneur sans titre. On inverse l'adage proposé par les seigneurs eux-mêmes. La présomption, évidemment, joue en faveur des paysans. Par ailleurs, il ne suffit pas que les seigneurs justifient que les biens communaux sur lesquels ils prétendent un triage soient mouvants de leur fief. Il faut que l'inféodation, faite au profit de la paroisse, l'ait été à titre gratuit. Et les termes utilisés par Oire pour rappeler cette règle, que l'on trouve dans les ordonnances, révèlent sa réticence. Je le cite. C'est à ce titre, donc l'inféodation à titre gratuit, c'est à ce titre que les seigneurs ont quelquefois été écoutés à demander le triage. Mais pour peu que l'aliénation ait été faite à titre onéreux, il n'y a jamais de tréfonds à espérer pour les seigneurs. Il ajoute, il faut donc aux seigneurs un titre spécifique que ces communes proviennent de sa libéralité gratuite. Sans cela, il est comme un autre habitant et ne peut avoir qu'un droit égal au leur. À la fin du XVIIIe siècle, le roi se laisse gagner par les nouvelles idées économiques des physiocrates, par la conception libérale de l'économie, les programmes d'assèchement des marais pour des raisons de salubrité ou la mise en valeur des terres incultes. Les physiocrates critiquent les communaux car rien ne peut remplacer la propriété individuelle dont on tire un meilleur profit. Il faut donc partager les communaux. Mais comment les partager ? Pour voir, la question de savoir si l'on doit partager les communaux par tête ou à proportion des fonds de chacun dépend d'une autre question, celle de savoir si le droit des communiers est un droit réel ou un droit personnel. Il nous dit « Il est évident que ça a été pour nourrir le bétail d'une paroisse que dans la division originaire des fonds, on en a laissé une partie pour l'usage commun, partie dont personne en particulier ne pouvait disposer. » Le droit d'usage est donc réel, attaché au fond de la paroisse. C'est par conséquent la proportion relative au fond qui doit servir de règle. Cette règle, les membres des commissions et autres bureaux d'agriculture et de biens publics des assemblées normandes, qu'il s'agisse de l'assemblée provinciale ou des assemblées de département, en ont conscience. Pourtant, ils vont chercher à l'aménager pour préserver les plus démunis. La commission de l'agriculture, du commerce et du bien public de l'Assemblée provinciale de la Généralité de Rouen se réunit le 5 décembre 1787. Elle va tenter de faire admettre le défrichement des terres vaines et vagues et par conséquent le partage des communaux. Elle sait que sa tâche ne sera pas aisée, qu'elle rencontrera des résistances. Et parmi ces résistances, elle compte les dispositions des coutumes. C'est alors une autre coutume qu'elle met en avant. Nous pensons que la coutume unique et générale est celle qui est dictée par l'équité, la raison et l'intérêt public. Il va falloir combattre les résistances et il convient, dans un premier temps, de saper dans ses fondements, dit-elle, l'antique et général préjugé qui fait regarder les communes comme une source de prospérité dans les campagnes. La Commission présume hostile à l'opération, je la cite toujours, des habitants de la campagne qui, dans leur vue resserrée, seront peut-être les premiers à s'élever contre leur propre intérêt. C'est encore une opposition riche-pauvre qui pourrait constituer un frein. Les membres du Bureau du bien public de l'Assemblée du département, cette fois-ci l'Assemblée du département de Rouen, craindront encore, en octobre 1788, que les plus pauvres ne rejettent cette proposition de partage des communaux, en vue des défrichements, uniquement parce que ce serait un projet porté par les puissants. Je cite les membres du bureau, « qu'on s'efforce de dissiper leurs préjugés, réels ou prétendus, on passera dans leur esprit pour des riches avides qui veulent tout envahir et pour des âmes mercenaires gagées pour étayer le système destructeur de quelques hommes puissants. Et pour prix de son zèle, on encourra la haine publique. » En cette fin de XVIIIe siècle, la commission de l'Assemblée provinciale compte pourtant sur l'évolution des mentalités. Maintenant, le système est entièrement changé, le cultivateur est plus instruit. Il s'agit, par le défrichement, d'obtenir une meilleure rentabilité de la terre. Pour parvenir à ce résultat, l'amélioration des terres, un moyen paraît unique, nous dit l'Assemblée, unique et facile. Il consiste dans le partage des communaux, par lequel on substituera la propriété particulière qui vivifie tout à la jouissance commune qui entraîne abus, insouciance et détérioration. Reste à savoir comment opérer ce partage. La Commission s'est documentée, elle a consulté bon nombre d'ouvrages, tous les traités sur les communes, nous dit-elle, et elle parvient à dégager plusieurs opinions quant aux moyens de partager les communaux. Pour certains, le partage doit se faire par tête ou par feu, et pour d'autres, il doit se faire proportionnellement, un pied pour perche ou homard, la livre de la taille. Par ailleurs, la Commission souligne la position du Parlement de Normandie. Un arrêt de mars 1747 juge que les partages des communes se feront en proportion des fonds de chacun. C'était déjà ce que préconisait Ward, nous l'avons vu. Ce moyen de partager les communaux ne semble pourtant pas avoir la faveur de la Commission. C'est selon elle le mode d'attribution originaire des communaux qui doit guider les règles de partage. Or, toujours selon la Commission, je la cite, « personne n'ignore que les communes ont été autrefois abandonnées par les seigneurs à leurs vassaux pour qu'ils en jouissent en commun et sans aucune distinction. Il ne paraît pas douteux que dans cette concession des seigneurs, il ne paraît pas douteux que cette concession des seigneurs, ayant eu pour objet d'appeler des habitants dans leur territoire, le droit aux communes dut être accordé également par tête ou du moins par feu. » Alors, on retrouve ici l'idée d'attirer la population que Dudon accordait déjà à Roland lui-même. Or, cette destination originaire est imprescriptible, nous dit la Commission. Si certaines communautés n'accordent des droits aux habitants qu'à proportion des terres dont chacun est propriétaire, ce ne peut être pour la Commission qu'une dérive, qu'un abus, et ce mode de jouissance ne peut pas servir de modèle au partage. Ne pourrait-on pas soupçonner ce dernier système de n'être qu'un nouvel exemple des abus si fréquents de la loi du plus fort ? À n'en pas douter, la Commission souhaite protéger les plus démunis. Ainsi, la Commission va-t-elle proposer une méthode de partage des communaux, un plan, nous dit-elle, conforme à l'esprit de leur établissement. Nous penserions que le partage pourrait être fait par feu, jouissant maintenant du droit de commune, à raison d'une propriété quelconque dans la paroisse. Et elle n'hésite pas à solliciter un argument étymologique, je la cite toujours, « loin de croire qu'il serait plus juste de partager en raison de la puissance et de la quotité des biens de chacun des paroissiens, nous estimons au contraire que ce serait s'éloigner de la jouissance indivise, de ce que prescrit positivement le mot ou l'acception commune, vous donneriez le plus à celui qui en aurait le moins besoin » et le moins à celui dont la nécessité serait la plus constante. Derrière ce partage par feu, il y a évidemment le souci des plus pauvres. Mais l'attention portée aux pauvres par la Commission va plus loin encore. Elle se préoccupe également de ceux qui n'auraient pas dans la paroisse une propriété quelconque et qui, de ce fait, ne pourraient pas venir au partage. En effet, elle propose une mesure qui pourvoira à leurs besoins. Si, avant le partage, le tiers du seigneur, ce qu'elle appelle le tiers du seigneur, pourra être attribué à celui dont le droit sera constaté, autrement dit le seigneur qui sera capable de présenter un titre de propriété, la Commission affirme, je la cite, « Nous voudrions aussi que préalablement un tiers de la masse des communes fût prélevé pour être mise en valeur en faveur des habitants sans propriété et des véritables pauvres. Cette part serait gérée comme les biens de l'Église, par les trésoriers de la fabrique, la part pourrait être louée au plus offrant et le profit serait partagé entre les pauvres selon leurs besoins. » Alors, c'est une mesure qui ne serait tout de même pas gratuite. Elle est conçue comme la contrepartie d'un travail effectué par les pauvres, je cite toujours la Commission. « La distribution du produit se ferait en paiement du travail des chemins traversant la communauté. Ce serait une manière de pourvoir à l'amélioration des chemins et de sauver les pauvres de l'état de mendicité. » Après avoir entendu les membres de la Commission, l'Assemblée provinciale décide de suspendre sa délibération jusqu'à ce qu'elle ait pu recueillir des éclaircissements particuliers et locaux, dit-elle. Alors, l'Assemblée provinciale avait promis une médaille d'or ou la somme de 400 livres à l'auteur de mémoire qui... projet qui pourrait être réalisé. Malheureusement, aucun savant n'a répondu, aucun mémoire n'est parvenu sur le bureau de l'Assemblée, et donc elle va se tourner vers les départements. Alors, nous avons tiré des archives les procès-verbaux et rapports de bureaux d'Assemblée de trois départements, Neuchâtel et Eu, qui forment un seul département, Rouen et Caudebec. En octobre 1788, la commission du bureau du bien public de l'Assemblée du département de Neuchâtel et Eu mène donc une enquête pour répondre aux attentes de l'Assemblée provinciale. Elle constate que, je la cite, « l'état actuel des communes est plutôt préjudiciable à l'agriculture qu'il n'est favorable aux habitants qui en jouissent indivisément ». Et donc elle propose le partage. Quant au mode de partage préconisé par le bureau, c'est un partage mi-parti, empruntant à la fois au partage par feu pour la moitié des terres et au partage au prorata des terres possédées par les habitants pour l'autre moitié, puisque, nous dit le bureau, ce partage a déjà été adopté en Haute-Guyenne. Le 24 octobre 1788, un rapport du bureau du bien public sur les communes est lu à l'Assemblée générale du département de Rouen. Et là, la préoccupation des pauvres se lit pratiquement à toutes les lignes. Le bureau distingue trois espèces de communes. Les communes de Bruyères, les communes de Marais et les communes proprement dites. Les deux premières espèces sont, telles quelles, indispensables aux plus pauvres. En effet, ces derniers, je cite le bureau, font des récoltes abondantes de Bruyères dont ils se servent pour cuire le pain qui fait leur unique nourriture. Bruyères indispensables également, je cite toujours le bureau, aux cultivateurs indigents, attentifs à étendre dans leurs étables des paquets de Bruyères qui y deviennent un excellent engrais, qui portaient au milieu des champs les fertilisent. Quant aux marais, même s'ils méritent une proscription générale, dit le bureau, essentiellement en raison des exhalaisons fétides et meurtrières, ils n'en présentent pas moins une utilité réelle, puisqu'on en retire, je cite le bureau, de la tourbe qui devient un secours pour les pauvres dans un temps où le bois est fort rare et fort cher. Quant aux communes proprement dites, elles permettent encore aux pauvres d'avoir quelques troupeaux, je cite le bureau, composés de vaches utiles dont la liqueur douce et salutaire nourrit de jeunes enfants, l'espérance de l'État, et offre souvent de grands secours à des familles entières. Toutefois, peut-être le défrichement de ces communes pourrait servir l'intérêt général. Il faut mener l'enquête, et si cela s'avère utile pour la population, il faut effectivement opérer le partage. Mais le bureau se veut prudent. La seule crainte qu'il éprouve, je le cite, est de ne pas défendre avec assez d'énergie et de chaleur la cause des malheureux habitants de la campagne. Pour les membres du bureau, l'enquête doit être menée sur le terrain par les procureurs syndics qui sont en rapport constant avec les municipalités. Ce sont les municipalités qui sont les mieux à même de savoir si l'intérêt public exige le partage des communaux. pour les membres du bureau, ces municipalités, je le cite, auront bien de la peine à proposer qu'il faut faire entrer les communes dans le partage, dans la masse des propriétés privées et exclusives, parce qu'elles connaissent parfaitement les dispositions des pauvres habitants de la campagne, qui pousseraient de profonds soupirs, feraient des plaintes amères et se livreraient peut-être à un cruel désespoir si on leur parlait du partage des communes, qu'ils regardent comme l'aliment inaliénable de leur famille. Très clairement, le bureau se montre réticent vis-à-vis du partage des communes. C'est alors la sagesse de la coutume qu'il évoque pour conforter son argumentation dans un rapprochement entre les dispositions coutumières qui assurent la conservation des biens dans la famille et la volonté de conserver les biens communaux au sein des paroisses. C'est l'un des traits les plus forts de notre coutume qui est d'abord évoqué. Je cite le bureau. On admire avec raison la sagesse de la coutume de Normandie qui a mis un père de famille dissipateur dans l'heureuse impuissance de dépouiller entièrement ses enfants du bien qu'il a reçu de ses ancêtres. Le père de famille lui-même, et on connaît l'autorité en Normandie, doit respecter les biens qui viennent des ancêtres, qui appartiennent à la famille de génération en génération, plus qu'à l'individu lui-même. Cet individu serait-il le chef de la famille ? De la même façon, la coutume de Normandie, je cite toujours le bureau, assure aux générations futures d'une paroisse des biens qui en sont le patrimoine depuis des siècles. Un ami de l'humanité pourrait-il prononcer l'anéantissement de cette loi bienfaisante ? Cependant, admettre le partage serait l'anéantir. Si le bureau est conscient qu'il faut améliorer le rendement des communaux, du moins s'interroge-t-il sur la nécessité d'un partage. Peut-être est-il possible de mettre en valeur les terres sans partage. À tout le moins, si partage il doit y avoir, qu'on y procède avec lenteur, dit le bureau. On doit se hâter lentement, procéder au partage avec beaucoup de précautions, le faire dépendre, si cela est possible, du choix des habitants de la paroisse, qui regardent alors comme un bénéfice un partage qui ne pourrait actuellement que les alarmer. Et le bureau préconise ce qu'il appelle la méthode pacifique, adoptée pour changer la corvée en prestation d'argent. Après avoir expliqué aux habitants les raisons de la nécessité du partage, qu'on leur donna encore une liberté entière de suivre l'ancien usage ou de procéder au partage des communes. En ce qui concerne les modalités de l'éventuel partage, le bureau reconnaît que si l'on veut observer une justice rigoureuse, ce sont ses mots, il convient d'opérer un partage proportionnel aux terres possédées par ailleurs par les habitants. Le droit sur les communaux est un droit réel et partager par tête reviendrait à violer les droits sacrés de la propriété. Et pourtant, je cite le bureau convaincu de ce principe, sumumius summa ignoria, autrement dit comble de justice, comble d'injustice, croit que ce serait blesser le droit des pauvres que de suivre dans un partage général la rigueur des lois et des arrêts qui semblent accorder tout aux riches, qu'ainsi on ne doit point partager à raison des propriétés au pied perche. Et le bureau va se ranger aux avis qui proposent un partage mixte, comme celui dont on a parlé tout à l'heure, comme en Haute-Guyenne, moitié des terres partagées par feu, moitié des terres partagées proportionnellement à la propriété. Même allusion à une justice rigoureuse pour le bureau de l'Assemblée du département de Caudebec. Même conséquence quant au partage proportionnel. Et même regrets aussi. De là suit cette conséquence affligeante, point de propriété, point de part aux communes. Par là, les pauvres en sont exclus à jamais, ce qui choque l'humanité même. Là encore, le bureau va se préoccuper non seulement de la situation de fait des pauvres, mais encore va-t-il proposer une interprétation juridique de la situation et son raisonnement est judicieux. Je le cite. « Dans le fait, les fonds appartiennent aux riches, mais ce n'est pas franchement et en exemption de charge. Une charge naturelle, imprescriptible, sacrée, imposée aux riches, et qu'ils ne peuvent méconnaître ni contester, est celle de fournir aux pauvres leur substance, des bureaux, leur subsistance, et pour commencer à y satisfaire, ils peuvent et ils doivent consentir à ce qu'ils soient distraits des communes, une portion quelconque, qui sera en quelque sorte la légitime des pauvres. » Le terme fait évidemment allusion à la légitime successorale qui met le père dans l'heureuse impuissance de dépouiller entièrement ses enfants. Le bureau propose donc le partage suivant. Un tiers des communaux sera remis au seigneur capable de montrer un titre et les deux tiers restants seront attribués aux communautaires, pour la communauté des habitants. Et sur chacune de ces deux portions, un tiers sera prélevé pour les pauvres. La parcelle à partager, elle, le sera au pied de la perche. En définitive, l'Assemblée provinciale ne sera pas réunie, hein, les événements politiques se précipitent, il appartiendra aux révolutionnaires d'opérer le partage des communaux. Mais on le voit, c'est le souci de protection du plus faible qui semble guider les membres des assemblées normandes, comme il avait guidé plusieurs siècles auparavant le duc de Normandie et les rédacteurs des textes coutumiers. Merci.